On a commencé par un bout, c'est un fait. Mais l'autre bout, où est-il ? Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Marcelin Plenet. À quoi ressemble-t-elle votre bibliothèque, Marcelin Plenet ?
À quoi ressemble-t-elle ?
Je suis sûr qu'elle est très bien rangée, parce que vous êtes un garçon ordonné.
Elle est plus ou moins bien rangée, elle occupe beaucoup de place. L'actualité se trouve dans des pièces qui sont face aux fenêtres.
L'actualité, c'est-à-dire ?
Les livres qui arrivent. Les livres quotidiens. Et les livres auxquels je suis attaché depuis très très longtemps se trouvent dans un espace qui est sans lumière. Elle est divisée en plusieurs parties et elle est même divisée en un nombre de lieux multiples, puisqu'une partie se trouve à Paris et l'autre partie se trouve pas très loin de Chartres.
Ah, vous avez une résidence secondaire.
Non, ça n'est pas une résidence secondaire, c'est ma résidence principale. Ma résidence secondaire, c'est Paris, ce qui permet d'être beaucoup plus libre avec Paris.
Alors évidemment, quand vous êtes à Paris et que vous cherchez un livre, il se trouve à la campagne.
Pas vraiment, parce que les livres qui se trouvent à la campagne, ce sont pour la plupart les livres que j'ai lus et que je n'ai pas besoin de relire. Les livres qui se trouvent à la campagne sont des livres qui sont plus associés à ma biographie et qui sont plus plongés dans l'histoire, moins liés à mon activité actuelle et moins liés à ma préoccupation actuelle. Et lorsque je veux relier, si je puis m'exprimer ainsi, des livres qui ont eu une importance biographique dans le passé, je les ramène à Paris.
C'est-à-dire les livres qui vous ont changé la vie ?
Oui. Je ne sais pas si des livres m'ont changé la vie. J'ai l'impression plutôt que c'est ma vie qui change les livres. C'est davantage ma biographie qui transforme la bibliothèque que la bibliothèque qui transforme ma biographie. Je ne peux pas lire au passé. Je lis toujours au présent. Toujours au présent. Ce qui fait que un livre que je lis est un livre que j'actualise. C'est un livre que j'actualise en fonction d'expériences concrètes, contemporaines, qui m'amènent près de ce livre, mais qui m'y amènent de façon assez curieuse. C'est-à-dire, au fond, le gros problème de la bibliothèque pour un écrivain, le vrai problème, me semble-t-il, ça n'est pas comment se servir de la bibliothèque, c'est comment s'y ajouter. Comment s'ajouter à la bibliothèque, ça ne va pas de soi. Donc la bonne façon, me semble-t-il, de s'ajouter à la bibliothèque, c'est de lire toujours au présent, c'est de considérer toujours ce qu'on lit au présent. De faire que ça peut être un ouvrage, ça peut être Homère, ça peut être Dante, ça peut être un livre tout à fait contemporain. Ce qui fait que ce que l'on considère, au fond, on le réactualise, on le verse au compte de ce qu'on est en train de vivre. Et on s'en sert pour vivre. Je crois que c'est Joyce qui disait « L'œuvre de Shakespeare m'a servi très très souvent à résoudre des problèmes très actuels et très immédiats et très contemporains. » Bien, la bibliothèque me sert souvent à ce type de résolution. Résoudre des problèmes existentiels, immédiats et contemporains. Mais ce n'est pas forcément les livres qui sont parus hier ou avant-hier qui permettent de résoudre cela. Bien au contraire, parfois les livres qui viennent de paraître viennent troubler la façon que j'ai de vivre ou ce que je suis en train de vivre. Et ça peut être un livre très, 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 très lointain qui va venir résoudre ce problème. Je ne pense pas qu'il y ait une organisation chronologique de la bibliothèque. Je ne pense pas qu'il y ait une organisation chronologique de la pensée, et je ne pense pas qu'il y ait une organisation chronologique non plus de l'existence ou de la vie. Le rapport, là, n'est pas du tout chronologique. Il est lié à des phénomènes existentiels qui traversent le temps sans tenir compte de la chronologie, c'est-à-dire qu'ils soient susceptibles de se retrouver dans des espaces qui sont apparemment très lointains et en fait et en vérité extrêmement proches.
La lecture, c'est un entretien infini, alors ?
Entretien, je veux bien, mais entretien infini, c'est le titre d'un, autant que je me souvienne, c'est le titre d'un livre de Maurice Blanchot. Entretien, je ne sais pas, c'est un dialogue. Beaucoup plus qu'un entretien, c'est un dialogue. C'est un dialogue au grand sens du terme. C'est-à-dire que le rapport à la bibliothèque est un rapport dialogique, en effet. Mais pas un dialogue unique, c'est une multiplicité de dialogues en même temps. Vous tirez un livre, on ne tire jamais un livre de la bibliothèque. On tire avec un livre 100, 200 ou 300 livres de la bibliothèque en même temps. Si on tire Proust, un volume de La Recherche du Temps Perdu, on va tirer Balzac, on va tirer Saint-Simon, on va tirer Chateaubriand, on va tirer tout le XVIIe siècle, à travers le XVIIe siècle, on va tirer Homère, on va tirer Racine, on va tirer toute la littérature classique. Donc on ne tire jamais un livre de la bibliothèque, on tire toujours un espace qui est un espace de conversation et de dialogue où il y a toujours beaucoup de voix qui parlent en même temps, beaucoup, beaucoup de voix qui parlent en même temps, qui bavardent en même temps. Et c'est de ce bavardage, oui, pourquoi pas, c'est de ce bavardage qui est à la fois noble et trivial et qui peut être même frivole, c'est de ce bavardage que naît cette façon de considérer tel ou tel volume qui pourrait paraître pompeux, les mémoires de Saint-Simon par exemple, je ne sais pas, tel volume qui pourrait paraître pompeux, qui va le tirer de la bibliothèque et lui donner une fraîcheur tout à fait nouvelle. Simplement parce que la façon de le considérer ne sera pas historique, ne sera pas spéculative, ne sera pas didactique, mais sera tout simplement actuel. Comment est-ce que je me pense aujourd'hui? Qu'est-ce que le contexte dans lequel je suis amené à penser? Bien entendu, c'est un contexte tout à fait précis, avec ses définitions, avec ses contraintes. Mais ce contexte n'est pas étranger à bien d'autres. Pas étranger à bien d'autres du tout. La façon dont je me pense aujourd'hui ne va pas être étranger à la façon dont Proust a pu se penser au début du siècle, dont Balzac a pu se penser au début du 19e, dont Saint-Simon ou Bossuet ont pu se penser au 17e, au 17e, dont Villon a pu se penser, dont Homère a pu se penser. Il n'est pas très, très, très différent. La société humaine véhicule à travers les siècles les mêmes conneries. Et les écrivains sont en proie aux mêmes contraintes, aux mêmes difficultés, aux mêmes impossibilités et à la même volonté de comprendre ce qu'ils vivent et de donner de ce qu'ils vivent quelque chose qui soit un peu plus sublime. un peu plus intéressant que le simple mécanisme de la société à laquelle ils sont. J'adore cette phrase des dialogues de Fontenelle, où Fontenelle explique à une marquise comment fonctionne l'univers. Il lui explique que l'univers fonctionne comme une grande horloge. Alors le discours de Fontenelle est très très cohérent, très 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 rationnel, très très bien fait. La marquise l'écoute et au bout d'un moment elle lui dit: mais monsieur Fontenelle, n'avez-vous pas une vue plus sublime de l'univers? Je crois qu'on peut toujours avoir une vue, sinon plus sublime, plus vraie, de l'univers à l'intérieur duquel on vit. Et je crois que c'est le propre de tout artiste, de tout écrivain à travers les siècles. Comment avoir une vue plus juste, plus vraie de la beauté à laquelle on aspire, de la vérité à laquelle on aspire, et que le siècle traite toujours un peu légèrement.
Je ne connais pas tous vos secrets, Marcelin Plenet, mais il y a au moins deux centres d'intérêt qui nous sont connus, la littérature et les arts, disons. Oui. Est-ce que vous les dissociez dans votre bibliothèque?
Vous voulez dire dans le rangement de la bibliothèque?
Oui.
C'est inévitable parce que nous sommes dans une époque où, de façon extrêmement pompeuse et extrêmement vulgaire, il faut bien le dire, les livres d'art font en général 20 à 35, voire maintenant 40 ou 50 centimètres de haut. Les œuvres littéraires, elles, font entre 20 et 25 centimètres au maximum. C'est difficile de classer cela sur le même rayon. Donc on est forcé de dissocier. Mais on est forcé de dissocier pour des raisons très, très triviales. En vérité, ils ne sont pas dissociés. Dans la lecture, ils ne sont jamais, jamais dissociés. Et dans ma tête, ils ne le sont en aucune façon. En aucune façon. C'est constamment que le passage se fait de l'un à l'autre, que l'un vient éclairer l'autre et que l'intelligence de l'un vient déterminer ou préciser l'intelligence de l'autre. La littérature a toujours été liée aux arts visuels depuis Aristote et bien avant. La littérature a toujours été liée aux formes de représentation. Aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose de la rhétorique, mais la rhétorique voulait que un écrivain qui donnait une description la présente comme un tableau, et qu'un peintre qui peignait un tableau le présente comme une description. Aujourd'hui, on a tendance à croire que la peinture se passe d'un côté et la littérature de l'autre. Lorsque la peinture se passe d'un côté, ça n'est plus tout à fait de la peinture. Lorsque la littérature se passe tout à fait de l'autre, ce n'est plus tout à fait de la littérature.
Est-ce qu'il y a une place pour vos propres livres dans votre bibliothèque? Une place à part?
Alors, il y a une place pour mes livres, bien sûr. Ce n'est pas une place à part, d'ailleurs. Mes livres sont en général rangés avec les livres de mes amis, dont vous faites partie, mon cher. Sont en général rangés sur des rayons auxquels voisinent les livres de mes amis. Ce n'est pas une place à part du tout. C'est une place que je dirais particulièrement affective. C'est une place à laquelle je suis très, très attaché, ce qui fait que ceux qui l'entourent, en général, participent d'un sentiment littéraire ou d'un sentiment de vérité ou d'un sentiment d'existence qui me semble proche de la mienne, quoique pouvant être très, très, très dissemblable. C'est d'ailleurs une bibliothèque en soi. Cette bibliothèque-là est une bibliothèque en soi. C'est la bibliothèque contemporaine, si je puis dire. C'est la bibliothèque contemporaine. Elle pourrait être très encombrante, mais en vérité, elle est très sélective. Elle est très, très, très sélective.
Mais quand vous publiez un nouveau livre, alors vous êtes obligé de lui faire une place dans votre bibliothèque, c'est-à-dire d'enlever le livre d'un ami?
Non, pas du tout. C'est une bibliothèque où il y a toujours de la place. C'est un... ce sont des rayonnages sur lesquels il y a toujours de la place. Ce sont des rayonnages aussi où, avec le temps, certains volumes ont sans doute disparu parce qu'ils avaient vieilli, parce qu'ils ne me semblaient plus actuels ou plus présents, et parce que je ne pensais plus avoir besoin de les consulter. Mais c'est une bibliothèque où il y a toujours de la place. Et lorsque je publie un nouveau livre, ben, mon Dieu, il vient s'ajouter aux, je ne sais pas, 15 ou 20 que j'ai déjà publiés sur le rayonnage, à côté de, je ne sais pas, à côté des livres de Philippe Solers, par exemple, qui est un écrivain que j'admire énormément et qui plus est un très bon ami, à côté des livres de Kristeva, à côté des livres de Barthes, à côté des livres de Severus Arduy, par exemple, et de nombreux autres. Et récemment, eh bien, vient d'entrer dans la bibliothèque le dernier roman de Severus Arduy. Mmh. Le dernier roman de Pascal Quignard, le dernier roman de Julia Kristeva, Le vieil homme et les loups, qui est un livre que j'admire énormément et qui me semble un livre portant une vérité si, si violente qu'elle a sans doute dû être censurée quelque part, et quelques autres. Donc c'est un endroit où je mets mes livres parce que j'ai l'impression qu'ils s'y sentent bien, que je m'y sens bien moi-même.
Mmh. Il y a longtemps qu'on n'a pas lu un livre de vous.
Eh bien, l'année prochaine, dans l'année qui vient, vous allez lire un roman. Vous allez lire mon deuxième roman.
Une histoire d'amour, j'espère.
Si on veut, oui, c'est une histoire. C'est ce que peut être une histoire d'amour aujourd'hui, en effet, avec toutes ces difficultés, toutes ces complications. Il n'y a pas d'autre histoire. Vous savez, pour moi, il n'y a pas d'autre histoire. Je crois que c'est les. Il est paru il n'y a pas très longtemps une série de volumes de Corbin chez Gallimard sur l'islam et sa tradition. Et dans ces volumes, Corbin, à un moment donné, note que pour toute une tradition, Eros a toujours été lié à Logos, que l'amour a toujours été lié au langage. Et c'est une vieille tradition, vous savez. Je me souviens lorsque j'ai visité en Turquie la bibliothèque de Pergame, qui aujourd'hui est une ruine, bien sûr. Lorsque j'ai visité cette bibliothèque, les guides s'amusaient à nous expliquer qu'il y avait bien sûr cette admirable architecture grecque tardive et les ruines qui en restaient, et ils s'amusaient à nous expliquer qu'on avait découvert un passage souterrain qui menait de la bibliothèque au bordel. Eh bien, je crois qu'il y a effectivement plusieurs entrées, plusieurs sorties dans la bibliothèque, et que le bordel, si je puis dire, est une des sorties privilégiées. Je crois que si on veut vraiment actualiser sa bibliothèque et ce qu'on lit dans cette bibliothèque, il faut d'une certaine façon l'érotiser. Que le bordel soit en communication avec la bibliothèque, il y a des tas d'exemples. Bon, alors il y a cet admirable exemple de la bibliothèque de Pergame, c'est-à-dire, vous savez, c'est une bibliothèque extraordinaire. Pergame est un grand moment de l'histoire de notre culture et de l'histoire des bibliothèques. Il y avait, je crois, 200 000 volumes dans une société, une civilisation qui venait d'inventer le passage du papyrus au parchemin. Le parchemin est une invention de Pergame, et porte étymologiquement parchemin, on trouve Pergame dans le parchemin. Il y avait 200 000 volumes, et cette bibliothèque avait donc un passage souterrain qui conduisait au bordel, à la maison close. Et je me suis brusquement, lorsque les guides m'ont expliqué cela, lors de la visite de la ville de Pergame et de la bibliothèque de Pergame, j'ai retrouvé en mémoire cette phrase extraordinaire de Diderot disant « Mes idées, ce sont mes catins ». Eh bien, je crois que voilà une bonne circulation et une bonne actualisation de la bibliothèque, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin de passage souterrain. Il suffit d'être vivant dans la bibliothèque pour qu'effectivement, toutes ces bibliothèques deviennent en quelque sorte vivantes et érotisées. qu'elle devienne un objet de, et un sujet de plaisir, qu'on y trouve un plaisir, mais pas seulement un plaisir sublime et intellectuel, qu'on y trouve le plaisir dans toute sa définition, dans toute sa réalité et totale.
Alors, puisque ce soir, Marcelin Plenet, nous sommes dans votre bibliothèque, vous avez pensé qu'on pourrait parler de quelques-uns des livres qui ont particulièrement érotisé votre pensée ou votre écriture, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a un auteur dont vous vouliez parler, c'est Balzac.
Oui.
Balzac, un auteur de romans, donc.
Oui. Vous savez, comme je vous le disais, il y a plusieurs entrées. La multiplicité de ces entrées est évidemment déterminée par les préoccupations que j'ai à un moment donné. Or, depuis que j'ai publié mon premier roman qui s'appelait Prise d'otage, je suis préoccupé par la situation du roman. Qu'est-ce que c'est que le roman? Qu'est-ce que ça peut être que le roman aujourd'hui? Que peut être le roman aujourd'hui? Comment penser aujourd'hui un roman qui ne serait pas simplement lié aux états d'âme d'un auteur, qui ne serait pas simplement lié à la volonté de raconter une histoire plus ou moins charmante ou plus ou moins désagréable, qui ne serait pas simplement lié à la vieille, pas si vieille d'ailleurs, affaire française du mari, de l'amant et de la maîtresse.
Une ténébreuse affaire.
Une ténébreuse affaire, comme le disait le grand Balzac. Comment penser le roman aujourd'hui? Ce qui fait que j'ai été rendre visite aux romanciers, j'ai été rendre visite notamment à Balzac. Balzac qui est peut-être le plus grand romancier français, qui est en tout cas le plus quantitativement l'un des plus importants, et qui a déterminé tout un aspect de la littérature romanesque française, et pas des moindres. Pensez que Balzac a plus de 2000 personnages. Balzac disait, je crois que c'était à Madame Anska, il disait j'ai toute une société dans ma tête. Il prévoyait, je crois, une centaine de romans. Il en a écrit moins de 80, autour de 80, et il les a organisés dans un ensemble qui porte le titre merveilleux, tout à fait merveilleux, qui d'ailleurs permet de relativiser le rapport qu'on peut entretenir avec sa propre société, qui s'appelle la comédie humaine. Comédie humaine, ça c'est un des aspects propres à Balzac, qui donc est organisé comme un ensemble, comme faisant figure d'ensemble, comme représentant une société dans son ensemble, mais comme étant à l'intérieur de la société une société elle-même. Comédie humaine qui a eu une influence considérable, puisque tous les grands ensembles qu'on a pu voir par la suite ont été déterminés par la comédie humaine. Ce qui vient tout de suite après, comme immédiatement déterminé par la comédie humaine, c'est Zola avec les Rougon-Macquart, qui est très très en dessous, parce que Balzac c'est l'histoire d'une société, et Zola n'ose pas affronter la mesure de Balzac, ça devient l'histoire d'une famille. Premier exemple. Balzac qui est admiré par tous ceux qui le suivent. Il y a des pages admirables de Baudelaire sur Balzac. Le nom de Balzac n'est pas cité moins de 40 fois dans l'œuvre de Baudelaire. Donc Balzac qui a cette influence considérable sur Zola, mais qui va avoir une influence non moins considérable sur quelqu'un qui lui paraît apparemment très éloigné, qui en vérité lui est très proche, sur Proust. Là, si on pense que la recherche du temps perdu doit vraisemblablement son titre à un roman de Balzac, La recherche de l'absolu, très très vraisemblablement. On s'aperçoit qu'à l'intérieur de l'espace romanesque, Balzac occupe un rôle considérable, une place énorme et très importante.
Vous le lisez depuis longtemps, Balzac ?
Ah, je le lis depuis... Je lis Balzac depuis que j'ai 14-15 ans, oui. J'ai énormément lu Balzac lorsque j'étais un adolescent. J'ai lu Balzac jeune homme et je n'ai jamais cessé de le lire. Ce qui me frappe chez Balzac aujourd'hui, c'est que c'est peut-être le plus intelligent des romanciers qui soit, ayant la vue la plus juste de lui-même et du monde à l'intérieur duquel il vit. Il y a une phrase de Balzac que j'admire entre toutes et que j'avais l'intention de mettre un jour en épigraphe à un de mes livres. Balzac déclare « Je suis de cette opposition qu'on appelle la vie ». Et il me semble en effet que si un écrivain n'est pas de ce type d'opposition, ça risque très fort de devenir un fonctionnaire ou simplement un écrivain d'actualité. Balzac met en évidence ce fait tout à fait extraordinaire, la vie surdétermine toutes les structures, que ce soit les structures sociales, que ce soit les structures idéologiques, que ce soit les structures politiques, la volonté de vivre, qui est chez Balzac une volonté de puissance presque nietzschéenne. On peut dire que Balzac, d'une certaine façon, initie l'œuvre de Baudelaire comme elle répond de la philosophie de Nietzsche, qui est une volonté de puissance. Donc cette opposition qu'est la vie ne tolère aucune contrainte et aucune répression, ne tolère aucun cliché et aucune norme, à tel point que l'on peut voir dans l'œuvre de Balzac le blanc et le noir traités d'une façon aussi également critique. Il y a chez Balzac une pensée de la première moitié du XIXe siècle qui vaut pour tout le XIXe siècle et qui, à mon avis, continue à valoir pour le XXe siècle. Alors, ça, c'est une chose qu'on ne met pas souvent en évidence et qui, à mon avis, fait de Balzac un monument beaucoup plus grand que n'importe quel autre monument romanesque du XIXe et du XXe siècle. Il y a un des plus subtils et un des plus grands critiques des littératures européennes de la première moitié du XXe siècle, qui s'appelle Curtius, et qui compare Balzac à Homère et à Shakespeare, à Dante, à Homère et à Shakespeare. Et je crois qu'en effet que si l'on cherche une figure susceptible d'assumer au XIXe siècle ce que Homère, Dante et Shakespeare assument chacun dans leur siècle, il n'y a que la figure de Balzac qui puisse l'assumer. Il couvre vraiment tout son siècle. D'ailleurs, il faut savoir que la Divine Comédie, le titre qu'il donne donc à l'ensemble de ses romans, la Divine Comédie doit son titre à Dante. La Comédie humaine est un titre qui s'ajoute et qui vient s'ajouter et qui s'emprunte à la Divine Comédie. La Comédie humaine, c'est quelque chose qui s'ajoute à la Divine Comédie, comme La recherche du temps perdu vient s'ajouter à la Comédie humaine et reste une Comédie humaine.
Alors sur ces 80 livres qui composent la Comédie humaine, il y en a certains que vous préférez évidemment à d'autres. Parce que vous ne recommandez pas de lire globalement tous les titres à la suite, Marcelin Plenet ?
Non, d'ailleurs, ça ne se lit pas à la suite. Ça n'a pas été composé à la suite et ça ne se lit pas à la suite. Il y a là, au moins aujourd'hui, pour des raisons diverses, trois livres qui me... qui m'attache particulièrement. Le premier, pour des raisons alors tout à fait littéraires et liées, me semble-t-il, au roman que je vais publier, est un livre que je lis et que je relis depuis longtemps. C'est un roman d'ailleurs qui porte plutôt vers la fin de la carrière de Balzac. C'est La fille aux yeux d'or. C'est La fille aux yeux d'or, qui doit faire quoi qui fait 70 pages et qui est une très très étrange histoire et une très très merveilleuse histoire. Si on essaie de raconter La fille aux yeux d'or, ça va se résoudre très très sommairement à ceci. Henri de Marsay, se promenant au Louvre, dans les jardins du Louvre, croise une très jeune fille qui s'appelle Paquita Valdés, qui le regarde avec évidemment beaucoup de plaisir et qu'il regarde lui-même avec énormément de plaisir. Il semble que cette Paquita Valdés, qui est géorgienne, qui n'est donc pas européenne, soit la prisonnière de quelqu'un, qu'elle soit enfermée, qu'elle soit la prisonnière de quelqu'un. Le roman va simplement résoudre l'enfermement de la très jeune femme et permettre aux amants de se rencontrer. Or, les amants se rencontrant, Henri de Marsay constate que cette jeune femme est très informée sur les choses de l'amour, sauf sur une seule, qui est l'acte qu'une femme commet avec un homme. Et il va découvrir que cette jeune femme dont il est tombé amoureux est en vérité la prisonnière d'amour homosexuel féminine. Ils vont devenir amants, ils vont s'aimer avec la passion qu'on avait lorsqu'on s'aimait en ce début du 19e siècle, très violente, avec toutes les difficultés et toutes les intrigues que suppose le fait d'avoir accès à une femme qui est enfermée. Ils vont s'aimer jusqu'au moment où, revenant sur le lieu où est enfermée cette jeune femme, l'amant la découvre poignardée, morte, la chambre couverte de sang, et à côté, la femme qui emprisonnait sa maîtresse. Et il va découvrir que cette femme qui emprisonnait sa maîtresse, c'est sa sœur à lui. Ce qui m'a vivement intéressé, ce qui m'a toujours intrigué et vivement intéressé là, c'est que c'est évidemment très peu conventionnel comme amour. C'est très peu conventionnel comme amour entre un frère, une sœur et une autre femme. Que je ne suis pas sûr que si on publiait ça aujourd'hui, notre puritanisme ne réagirait pas extrêmement violemment. Or, je suis très intéressé par les formes de censure que notre société met en place, par le puritanisme de notre société, et j'y suis d'autant plus intéressé qu'il me semble que ce sont là des clichés, des conventions qu'il faut essayer de déjouer. Alors voilà, il se trouve que dans la première moitié du 19e siècle, il y a un homme qui s'appelle Balzac, qui est un écrivain universellement reconnu, catholique et royaliste, ce qui ne l'a pas empêché d'être un des auteurs les plus traduits dans les régimes socialistes et d'être l'un des auteurs les plus lus et les plus traduits dans le monde. Voilà cet auteur qui se préoccupe de cela et qui s'en préoccupe dans un contexte tout à fait particulier, parce que La fille aux yeux d'or est un roman contemporain de Balzac. Je vous disais tout à l'heure que c'était un petit roman qui faisait à peu près 70 pages, et sur 70 pages, il y a 22 pages. Les 22 premières pages sont entièrement consacrées à la société contemporaine et à Paris, à la misère de la société contemporaine et à Paris. Est-ce que Balzac a pressenti, ce qui moi me préoccupe et me semble une chose importante, est-ce que Balzac a pressenti que pour parler de la société contemporaine, il faut aborder au plus profond ce que cette société rejette et ce dont elle a peur. C'est extraordinaire. Moi, je me souviens, il n'y a pas 6 ou 7 ans, un ministre français a déclaré il faut en finir avec l'inceste. C'est une jolie histoire. La déclaration est littérale. Il faut en finir avec l'inceste. C'est merveilleux parce que c'est toute l'histoire de notre culture, n'est-ce pas, qui dit cela. Il faut en finir avec l'inceste. Alors que 2000 ans après, un ministre trouve comme très important de dire il faut en finir avec l'inceste, ça veut dire qu'il faut aller regarder ce qu'il en est de ce côté-là, parce que sinon quelque chose de la société échappe.
Je suppose que
Balzac a été regarder cela.
C'était sous le choc de la cohabitation, non?
Vous croyez que vous avez trouvé la cohabitation incestueuse? Moi, pas vraiment. Je trouve que si elle avait été incestueuse, elle aurait été plus intéressante. Non, j'ai peur qu'elle n'ait pas été très incestueuse. Donc, il faut en finir avec l'inceste. Et pour traiter ce qu'il en est, donc, de sa société, eh bien, Balzac, au début du 19e, comprend effectivement qu'il faut essayer de voir ce qu'il en est de cette société par rapport à ce qui constitue, et il est vrai, l'un des tabous de toute la société occidentale de son origine à nos jours, à savoir l'inceste. Donc il faut aller toucher, il ne faut pas traiter un petit roman conventionnel sur les rapports affectifs d'une dame, d'un monsieur et d'un autre monsieur qui serait amant de la dame. Il faut toucher au tabou très très profond de cette société, il faut toucher au tabou de l'inceste. Et Balzac le fait donc avec La fille aux yeux d'or, qui est un roman merveilleux qu'il faut lire, qui se lit comme un roman contemporain, et beaucoup mieux que beaucoup de romans contemporains.
Et qui a l'avantage d'être bref.
Comment ? Et qui a l'avantage d'être bref. Il y a notamment, si vous permettez, je vous la lis parce que je l'ai notée, une des phrases qui est une phrase qui me semble toujours valable aujourd'hui et qui décrit la société parisienne. Balzac écrit « Le Parisien vit en enfant quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut goûter à tout. Prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance, ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idéal, qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette bas ses chagrins et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet de choses, l'amour y est un désir et la haine une velléité. » Eh bien, je crois que cela continue à valoir, hélas, dans une société beaucoup moins libre qu'elle ne le fut, je crois que cela continue à valoir aujourd'hui et que ce roman est vraiment un merveilleux roman qui apprend beaucoup de choses sur ce que nous vivons aujourd'hui.
Dans votre bibliothèque, Marcelin Plenet ?
Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais vous savez, aujourd'hui, les livres introuvables sont nombreux. Si vous cherchez dans librairie à vous procurer un certain nombre d'ouvrages de Bossuet, vous ne les trouverez pas. Je ne suis pas sûr qu'on trouve tout Balzac, excepté dans la Pléiade. Donc, ils sont très nombreux, mais il y a effectivement quelques livres difficiles à trouver et que j'aimerais voir rééditer, c'est sûr.
Parmi ces livres, alors, il y en a un dont vous me parlez depuis longtemps, Le songe de Polyphile. Je ne sais pas trop alors de quoi il s'agit.
En effet, Le songe de Polyphile, eh bien, c'est un livre qui est écrit à la fin du XVe siècle, et c'est un livre qui est écrit par un auteur vénitien qui s'appelle Francesco Colonna. Francesco Colonna est né en 1433 à Venise. Il est issu de la famille Colonna, dont le nom est associé à la colonne à laquelle le Christ fut lié pour être flagellé. Donc c'est une famille très noble et très fière du nom qu'elle porte. Il mène initialement la vie d'un jeune patricien, curieux des sources anciennes et nouvelles du savoir. Il voyage à travers l'Italie, la Grèce et jusqu'à Constantinople. En 1455, il est admis dans l'ordre des dominicains. Il devient donc un dominicain. Et tout en enseignant la rhétorique à un groupe de novices, il écrit, à mon avis, l'un des livres les plus curieux que l'on connaisse, et certainement les plus importants qui soient pour la culture, la littérature et l'art vénitien. Et surtout pour ce qu'on appelle le néoplatonisme vénitien, il écrit un livre qui s'appelle « Le songe de Polyphile » qu'il termine en 1467.
Votre exemplaire à vous date du XVe siècle ?
Non, mon exemplaire à moi ne date pas du XVe siècle. Je crois qu'il date de 1963 dans une édition sous forme de reprint qu'avait fait alors le club des libraires. Il est tiré en 1963 à 3500 exemplaires. Il n'a jamais été réédité depuis. Donc il est aujourd'hui tout à fait introuvable et tout à fait illisible, excepté en bibliothèque. Il faut d'ailleurs dire que cette édition de 1963 est une édition qui reprend la première traduction française du Songe de Polyphile, qui est donc une traduction qui date du début du XVIe siècle, qui est une traduction dans un français aujourd'hui très difficile à lire, et c'est un livre auquel il faut s'accrocher si on veut le lire. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui en reproduire une édition dans un français moderne, que double le français du XVIIe siècle, et que l'on puisse également reproduire ce qui fait un des aspects du Songe de Polyphile et qui a fait le succès du Songe de Polyphile, à savoir les illustrations. En effet, les premières illustrations étaient des bois gravés d'après l'école de Mantegna, et l'édition française était des bois gravés d'après l'école de Jean Goujon. Ce sont donc deux chefs-d'œuvre de gravure. Ce qu'il y a dans le Songe de Polyphile, c'est que Colonna s'était énormément, au cours de ses voyages, intéressé à l'architecture ancienne, l'architecture romaine et l'architecture classique. Et qu'au moment où il illustre son roman, il décide de donner au graveur des indications sur ce que furent ces monuments. Donc c'est la première publication à l'intérieur de la toute première Renaissance italienne, c'est la première publication de monuments classiques, grecs et romains. Autrement dit, il n'est pas un peintre qui naît consulter ce livre, précisément parce qu'il portait le témoignage de ce qui à ce moment-là ressurgit de façon spectaculaire dans la culture, à savoir la culture classique grecque et la culture romaine. Il n'y a pas un peintre qui n'ait regardé cela. Il paraît à Venise autour de 1499, et ce qui m'a arrêté plus récemment auprès de ce livre, c'est qu'il paraît au moment où Giorgione lui-même est un vénitien. Or, dans le livre que j'ai publié sur Giorgione, je me suis surtout arrêté aux Azzolani du cardinal Bembo, qui est une espèce de poème galant de la société vénitienne, un poème néoplatonicien de la société vénitienne. Mais Francesco Colonna va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le songe de Polyphile est une sorte d'initiation érotique de l'homme dans le monde. Et à un moment donné, par exemple, le personnage du roman se trouve entouré de cinq nymphes qui sont ses cinq sens et qui le mettent dans un tel état qu'on a l'impression que cet état érotique est un état tout à fait visible.
Ne m'en dites pas plus, Marcelin, je craque.
Et les nymphes lui disent, mais si tu trouvais en face de celle que tu aimes, que ferais-tu maintenant?
Marcelin Planet, je vous remercie. Je rappelle les livres dont vous avez parlé, Le songe de Polyphile de Francesco Colonna et de Balzac, La fille aux yeux d'or. Du jour au lendemain, Simone Rongé, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.